Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Génération, l'émission qui peut t'intéresser si tu as entre 16 et 25 ans. Ça se passe une fois par mois pendant 40 minutes, on fait le tour des dispositifs existants sur le territoire, mais on parle aussi de formation et d'insertion. Aujourd'hui, un programme dense, on va voir plein de choses. On commencera avec un zoom sur la formation BPJEPS proposée par le CNAM Iforis. C'est Vincent Dionisio qui nous en parlera en détail. On aura ensuite la chronique des Noxambules, on abordera le sujet des risques auditifs avec Sébastien Godard. Et puis on vous emmènera à l'atelier d'art appliqué qui se trouve 20 rue Florent Cornillot. On est allé sur place pour rencontrer Jérôme Ouadec, le directeur de l'école. On retrouvera aussi la chronique d'Alia. Le thème aujourd'hui, c'est le tabac et c'est Émilie et Thierry que vous retrouverez pour cette chronique. Et on terminera avec Unicité. On parlera de la mission Jade. J'ai reçu 4 jeunes en service civique là-bas. Ils vous en diront plus sur cette mission. Et pour se quitter, on parlera de 2 événements à ne pas manquer. Pour en savoir plus, rendez-vous en fin d'émission. C'est Génération. À tout de suite. Et on commence tout de suite avec une formation que propose le CNAM Iforis. C'est le BPJEPS. Et pour en savoir plus, je vous laisse avec quelqu'un qui en parlera mieux que moi.
Alors, je m'appelle Vincent Dionisio et je suis responsable coordinateur de la filière animation à l'Iforis, qui est un institut du CNAM et qui comprend en fait les formations BPJEPS animation culturelle, DEJEPS développement de projets réseau et territoire et le CC direction d'un accueil collectif de mineurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du BPJEPS animation culturelle, qui est en fait donc le brevet professionnel de l'éducation populaire et du sport, qui est un diplôme d'animation socio-culturelle de niveau 4, donc le niveau bac, grosso modo, qui en fait présente plusieurs spécialisations, en fait, plusieurs options. Et nous, celle qu'on propose, c'est l'animation culturelle. Alors le BPJEPS, il y a deux façons de voir les choses. Alors il y a les prérequis obligatoires. Il faut que les personnes qui se présentent en formation disposent de 200 heures d'animation à leur actif, professionnel ou bénévole, mais attestées par une structure. Il faut également que ces personnes disposent d'une formation au premier secours, puisqu'elles sont amenées à encadrer des groupes. Donc ça, c'est l'aspect un peu réglementaire. Et ensuite, nous, on procède à des sélections et donc on va rechercher des profils un peu spécifiques et notamment au point de vue de la spécialisation du diplôme, donc de l'animation culturelle. On demande quand même aux gens qu'ils aient une pratique de la culture, même si le terme n'est pas forcément très joli, mais qu'ils soient tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit des poèmes chez lui que personne n'a jamais lu, ok, il y a une pratique culturelle, mais on a envie quand même qu'il y ait cette ouverture d'esprit. Et puis au-delà de ça, c'est quand même un brevet professionnel d'éducation populaire. Donc on essaie de voir si aussi les valeurs sont compatibles avec celles du diplôme, quoi. Alors dans le contenu, c'est une formation qui va permettre aux stagiaires, donc puisque c'est un diplôme de stagiaire de la formation professionnelle, de préparer son diplôme au regard de 2 certifications qui sont en fait articulées autour d'un même projet, c'est-à-dire que le stagiaire va arriver dans une structure sur un territoire avec des publics et on va lui demander en fait dans un premier temps d'analyser en fait la situation, de faire ce qu'on appelle un diagnostic et donc d'établir sur quoi il ou elle a envie d'agir pour son projet d'animation. Donc ils vont déceler des problématiques, des axes, des champs d'amélioration en fait, et donc mener un projet au travers de différents temps d'animation culturelle sur l'intégralité de cette formation. Et donc à la fin de cette formation, il y a une certification où le stagiaire va produire un écrit qui va soutenir devant une commission pour présenter en fait ce projet. Et en fait, au milieu de la formation, sur un de ces temps d'animation, on envoie également des jurys pour attester que la personne anime en sécurité, avec une progression pédagogique cohérente, etc. Quoi. Donc il y a 2 certifications, mais toujours sur un même projet au fil des 12 mois de formation. Par exemple, on a une stagiaire qui était dans une médiathèque, qui disposait d'un jardin en fait qui n'était pas du tout utilisé. Et donc elle a décidé d'essayer de promouvoir un peu le rayon jardinage de cette médiathèque tout en organisant des ateliers espaces verts avec l'installation d'une grainothèque, avec des trocs de graines, des ateliers cuisine, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et on a une stagiaire elle est salariée, elle est animatrice dans une résidence habitagène et en fait elle a identifié que dans sa résidence il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins de femmes en proportion, et que en fait en discutant un peu avec les femmes et en organisant quelques temps de libération de la parole, elle a réalisé qu'en fait les femmes se sentaient très, très mal à l'aise dans la structure au regard du comportement de certains hommes, et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé dans un premier temps des temps d'animation où les femmes sont que entre elles pour recréer de la confiance et recréer du vivre ensemble, dans un premier temps entre femmes effectivement, et pour se réapproprier en fait certains lieux de la structure qui étaient en fait en pratique réservée aux hommes, notamment la cuisine, la salle de télé, etc. Ils ont réalisé des productions culturelles, en fait, des productions artistiques plutôt, d'art plastique, d'art visuel, etc. Et puis des fresques qu'elles ont peintes sur les murs, en fait, pour se réapproprier le terrain. Donc son projet, il commence comme ça, et après il va se poursuivre encore dans le temps. Et en plus elle est salariée, donc elle a la chance de rester dans la structure et de poursuivre le truc. Mais là c'est typiquement un diagnostic qui est imparable. C'est typiquement dans les valeurs que nous on essaye de mettre en place aussi. Et on est complètement dans de l'animation culturelle. Donc effectivement c'était un très très beau projet. Le contenu des journées qu'on propose en centre, c'est alors il y a l'inévitable méthodologie de projet où effectivement on va voir comment dresser un diagnostic, comment transformer des hypothèses en constats. On a aussi de la connaissance des publics où on va aller à la rencontre de publics qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit un public jeunesse, un public personnes âgées, un public migrant, un public de personnes en situation de handicap, etc. etc. Il va y avoir aussi beaucoup de notions de culture, d'interculturalité, de multiculturalité, comment on relie tout ça à la citoyenneté, au projet, à notre pratique professionnelle. Et puis au-delà de ça, on propose aussi plein d'ateliers culturels où ils découvrent des techniques d'animation qui vont tourner. Ben, ça peut être du théâtre, ça peut être de la mosaïque, ça peut être du jeu, ça peut être de l'art plastique, de la vidéo, enfin voilà, ça va être de la musique. Donc voilà, et ça, ce sont des outils, en fait, des techniques qui vont être au service du coup du projet que les personnes vont mettre en place et de leur pratique professionnelle dans le futur également. C'est une formation en alternance et grosso modo, je dirais à peu près 60% du temps de formation se passe dans une structure d'alternance. Avec qui on est en contact, avec qui on essaye aussi de construire les choses ensemble. C'est-à-dire que une des choses contre lesquelles on essaye de lutter, c'est cette idée qu'on apprend des choses théoriques en formation et qu'on les applique en structure. C'est un peu plus compliqué que ça. En gros, la philosophie, c'est plutôt qu'en structure, on voit des situations un peu idéales, des situations un peu dans règles de l'art, et que les tuteurs, eux, vont accompagner sur le particularisme des situations en structure, puisque bah, chaque public va être différent, chaque situation va être différente. Et c'est là que l'accompagnement des tuteurs, il est fondamental, et c'est là qu'ils font partie intégrante de l'équipe de formation. Et c'est pour ça aussi que c'est une formation qui a autant de stages, entre guillemets. Ouais. Entre la rentrée et le dernier jour, il y a environ 12 mois. Alors, le métier, c'est celui d'animateur socio-culturel. Par contre, les structures vont être très vastes, c'est-à-dire toutes les structures qui proposent des animations. Ça peut être évidemment des maisons de quartier, des centres socio-culturels, des maisons de la jeunesse, des MJC, enfin voilà. Ça peut être des EHPAD, ça peut être des services municipaux type bibliothèque, médiathèque, ludothèque. Voilà, ça peut être tout ce type de structures. Ça peut être des associations qui proposent des ateliers culturels et qui ont un projet d'animation, un projet social qui vont aussi rentrer dans une logique d'animation socio-culturelle. Donc le métier en tant que tel, ça va être un peu toujours celui-ci, en tout cas dans un premier temps. Et ensuite, par contre, les types de structures, le type de public, c'est vraiment complètement divers et varié. Alors il y avait des portes ouvertes le 1er février, donc il n'y a pas si longtemps. En revanche, les personnes intéressées peuvent tout à fait nous contacter par téléphone, par mail, nous retrouver sur internet, sur le site du CNAM Pays de la Loire, puisqu'on est un institut du CNAM, sous l'onglet donc IFORIS. Et puis nous, on est disposés parfaitement à rencontrer les gens. Les personnes intéressées peuvent aussi venir participer à une journée de formation. Et puis nous, on est tout à fait ouverts et disponibles pour rencontrer les personnes intéressées par la formation.
Merci à Vincent Dionisio pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de retrouver Fleur et Sébastien pour la chronique des Noxambules.
Donc je m'appelle Fleur Journiac, je travaille à la direction santé publique. Je coordonne l'équipe des Noxambules, qui est une équipe qui intervient sur l'espace public, sur tous les risques liés à la fête, une équipe de prévention par les pairs. Donc on parle de sexualité, de drogue et aussi de risques auditifs. Et donc en ce moment, là, le 12 mars, bientôt, c'est la journée nationale de l'audition. Et c'est pour nous l'occasion de parler un peu plus de cette thématique-là. Donc j'ai invité mon collègue Sébastien Godard, qui travaille aussi à la direction santé publique et qui est responsable du service handicap, pour venir parler de cette thématique-là avec nous, parce que c'est lui qui forme l'équipe des Noxambules tous les ans sur les risques auditifs. Et donc c'est un thème dont on parle beaucoup, nous, avec les Noxambules, et on voit que c'est le sujet le plus méconnu par les jeunes. C'est là où il y a le moins d'informations, et c'est aussi les risques en milieu festif les plus sous-estimés. Donc on va te poser les premières questions de base. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert une oreille?
Tout d'abord, ça sert à entendre, bien sûr. Mais quand on dit à entendre, ça sous-entend plein d'autres éléments, notamment, si on entend, c'est d'abord pour communiquer plus facilement, et c'est également pour suivre une conversation à plusieurs. Mais l'oreille, elle a également des fonctions essentielles qui sont complémentaires. L'oreille, ça sert notamment à s'orienter, à se repérer dans l'espace. Ça sert à se protéger, ça a une fonction d'alerte qui est importante. On entend ce qui arrive derrière, ou on entend ce qui arrive à droite ou à gauche. L'oreille, elle a aussi une fonction physiologique qui est celle de l'équilibre. Et puis surtout, l'oreille, elle sert à prendre du plaisir, à apprécier une musique, un texte, une pièce de théâtre, que sais-je encore. En tout cas, l'oreille, on doit la privilégier et la préserver grâce à tout ça.
Et comment ça fonctionne vraiment une oreille ?
Alors, il faut comprendre que l'appareil auditif, il se compose de trois parties. La première partie, c'est l'oreille qu'on voit, c'est l'oreille externe. Elle va du pavillon, qui est notre grande oreille qu'on aperçoit à l'extérieur de la tête. Donc elle va du pavillon jusqu'au tympan, qui est une membrane, et les deux sont reliés par le conduit auditif. Ça, c'est la première partie, l'oreille externe. La deuxième partie, c'est l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, elle est composée de trois petits os, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui sont les trois plus petits os du corps humain. Et ces trois petits os, c'est le tympan qui, en bougeant, la membrane, il faut imaginer un peu comme une voile de bateau qui se gonfle et qui se dégonfle avec le vent. Et bien, la membrane du tympan, avec le son, elle va se gonfler et se dégonfler, et donc elle va venir bousculer le marteau. Et ce marteau, bousculé, il vient frapper sur l'enclume qui fait vibrer l'étrier. Et ainsi, l'étrier transforme le son en impulsion électrique qui est conduite dans la troisième partie de l'oreille. Cette troisième partie, c'est l'oreille interne, qu'on appelle la cochlée. Elle a une forme de spirale qui est tapissée par des cellules ciliées. Et ces cellules ciliées, elles conduisent le son jusqu'au nerf auditif qui le transporte jusqu'au cerveau. En fait, les cellules ciliées vont transformer cette impulsion électrique en influx nerveux qui va être transporté jusqu'au cerveau, qui va pouvoir analyser et décoder le son.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'oreille interne, puisque c'est là que tout se passe ?
Oui, l'oreille interne, elle est un peu particulière par rapport aux autres oreilles. L'oreille externe et l'oreille moyenne, elles sont dans un milieu d'air. Mais l'oreille interne, elle est en milieu aqueux, en milieu liquide. Et le liquide, il interdit toute intervention de réparation. Et les cellules ciliées, elles ne sont pas remplaçables, elles ne sont pas renouvelables. On est avec à peu près 15 ou 16 000 cellules ciliées et à la naissance. Et tout au long de notre vie, elles vont s'user. Et parfois, elles vont s'user plus rapidement à cause d'événements violents, des sons forts, par exemple. Et lorsqu'elles sont touchées, ces cellules, lorsqu'elles sont usées, elles ne se régénèrent pas.
Et c'est quoi les conséquences possibles si elles ne se régénèrent pas ? Qu'est-ce qui peut arriver ?
Alors, les risques d'exposition aux sons forts ou d'usure des cellules ciliées, ils sont divers. D'abord, à force d'exposer notre oreille aux sons forts, on va fragiliser progressivement nos cellules en accumulant les micro-traumatismes. Donc ça va créer un vieillissement prématuré de notre audition et donc une perte prématurée auditive. Ensuite, il y a des phénomènes temporaires qui sont les bourdonnements, les sifflements qui disparaissent après une nuit de sommeil, mais chacun de ces bourdonnements, de ces sifflements sont des signes de traumatisme. Et puis enfin, il y a des phénomènes qui sont persistants et irréversibles. Il y a la surdité, bien sûr, qui vient immédiatement à l'esprit, mais ce n'est pas le seul risque. On peut aussi parler simplement de perte d'acuité auditive, c'est-à-dire cette malentendance qui s'installe progressivement. On peut aussi parler d'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est le fait d'entendre les sons de manière exacerbée, jusqu'à ne plus pouvoir supporter les sons, ou ne plus pouvoir sortir sans se protéger d'un casque, pour ne pas être agressé par les sons ambiants. Il y a également les acouphènes. Les acouphènes, c'est le fait d'entendre en permanence un sifflement ou un chuintement ou un grésillement, en tout cas, qui vient sans arrêt perturber notre audition. Donc tout ça, ça entraîne des difficultés. Tout à l'heure, on disait qu'une oreille, ça servait à entendre ou à communiquer plus facilement. Le fait de moins entendre va entraîner des difficultés dans un groupe, des difficultés relationnelles, et donc provoquer de l'isolement et progressivement une souffrance psychique. On peut ajouter également des impacts sur l'état de santé général, des impacts physiologiques, la perturbation du rythme cardiaque, la tension artérielle, la perte de vigilance, la perte des capacités de mémorisation, des nausées, des maux de tête, enfin bref, un certain nombre de conséquences physiologiques variables dues à l'exposition au son trop fort et à la perte auditive.
Et pour faire attention à ses oreilles, il faut faire quoi exactement ?
Alors il y a deux facteurs de risque principaux. Le premier, c'est le volume, et le deuxième, c'est la durée. Le volume, il se mesure sur une échelle qu'on appelle l'échelle des décibels. Donc on mesure le son en décibels sur une échelle qui part de 0, en gros le silence perçu, jusqu'à 180 environ, voire plus. Et l'oreille, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas faite pour ses sons forts. Dans notre origine, dans la nature, il n'existe pas de sons forts. Tous les sons forts sont des sons qui sont fabriqués par les technologies humaines, les moteurs, les engins, la musique amplifiée. Mais notre oreille, elle n'est pas conçue pour recevoir ces sons forts. Donc il faut l'aider à se protéger de ses sons forts. Donc pour donner quelques repères sur cette fameuse échelle de décibels qui va de 0 à 180, je vais donner trois chiffres. Le premier, c'est 60. 60 décibels, il faut imaginer une discussion classique, sans crier, qui varie de 40 décibels, une discussion calme, à 60 décibels, qui est une discussion animée. Donc 60 décibels, il n'y a pas de risque, c'est une discussion sur laquelle on peut élever un peu la voix, mais sans risque. 85 décibels, c'est le seuil de danger pour notre audition. Un coup de klaxon, une moto, une tondeuse mesurée à 1 mètre, ça fait à peu près 85 décibels. Donc c'est déjà des sons assez forts. Donc c'est le seuil de danger. Et puis 120. c'est le troisième chiffre. 120 décibels, c'est le seuil de douleur. Ça correspond à une voiture de course ou à un coup de feu en proximité. Ça signifie que entre le moment où je me mets en danger, 85 décibels, et le moment où la douleur me le fait savoir, 120 décibels, nous courons des risques très importants sans nous en apercevoir. Et il faut bien comprendre qu'entre 85 et 120, il y a un monde important. Parce qu'en fait, la manière dont on calcule les décibels, c'est une échelle particulière qu'on appelle logarithmique, et qui fait qu'à chaque fois qu'on multiplie par 2 le volume, on augmente de 3 le nombre de décibels. Autrement dit, quand je suis à 120 décibels, le seuil de douleur, je ne suis pas au double de 60, ma discussion, mais je suis au million. C'est-à-dire qu'il faudrait 1 million de personnes à parler comme moi à 60 décibels pour arriver au seuil de douleur. Tout ça pour dire que 120 décibels, c'est énorme, mais c'est possible parce que les technologies inventées par l'homme permettent d'arriver à des sons très très forts. Alors pour donner quelques repères de sons très forts, parce qu'on n'a pas toujours un sonomètre dans sa poche, quand à 1 mètre, on entend distinctement la musique écoutée dans un casque, ben ça veut dire que le son il est très fort. Quand on entend distinctement la musique dans une voiture, les portes fermées, là également, c'est un indicateur de son très fort. Et quand on ne peut pas discuter à 1 mètre sans crier, là encore, c'est que le son environnant est trop fort et fait courir des dangers pour notre audition. Ça, c'est le premier facteur de danger, de risque, c'est le volume. Le deuxième facteur de risque, c'est la durée. Elle est corrélée au volume, parce que bien sûr, plus le volume est élevé, plus le risque de lésion est rapide, et donc la durée d'écoute doit être limitée. Si on se fie à l'Organisation Mondiale de la Santé, à 85 décibels, donc le seuil de danger, 8 heures par jour suffisent pour courir un risque de lésion. À 100 décibels, c'est 15 minutes par jour. 100 décibels, c'est un MP3 au maximum, par exemple. À 120 décibels, le seuil de douleur, c'est 9 secondes, et en 9 secondes, on peut avoir des lésions irréversibles.
Comment les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent se protéger concrètement pour protéger leurs oreilles?
Alors d'abord, il y a la loi qui vient protéger. La loi, elle dit que les appareils nomades, donc les baladeurs, les MP3, les téléphones, ces appareils nomades doivent être limités à 100 décibels. Et puis pour les salles de diffusion de musique, les salles de concert, les salles de discothèque, etc., c'est limité à 102 décibels. Donc la loi, elle protège en fixant des normes. Mais la loi, elle ne fait pas tout. On a dit qu'il fallait limiter la durée. Donc la loi, elle ne vient pas dire que les salles de concert, elles doivent fermer toutes les 15 minutes. Donc il faut que chacun adapte ses comportements pour protéger son audition. Par exemple, dans une salle des fêtes classiques, dans une salle de fête où il y a une fête familiale, qui vient contrôler le son? Personne. Qui est attentif au positionnement des enceintes? Personne, il n'y a pas de contrôle, c'est pas comme dans une salle de concert classique. Donc, à chacun de faire attention, de limiter le volume ou de positionner les enceintes de manière plus éloignée. Pour l'usage du baladeur, qui contrôle le volume que vous mettez sur votre baladeur? Personne, c'est uniquement l'utilisateur. Donc, c'est important à chacun d'adopter des comportements qui viennent faire en sorte que son oreille soit protégée.
Et est-ce que tu peux nous parler du cas spécifique du baladeur?
Ben c'est vrai que le baladeur ou le MP3, c'est un problème un peu particulier, pour trois raisons. La première, c'est qu'on peut l'écouter fort, donc à 100 décibels, donc bien au-delà du seuil de danger. Donc on peut l'écouter fort et on peut l'écouter longtemps parce que les batteries sont performantes, parce qu'on peut mettre une durée de musique importante, donc on peut écouter sans se lasser. Donc ça, c'est la première raison, on peut écouter fort et longtemps, volume et durée. La deuxième raison, c'est le format lui-même du baladeur ou du format numérique de compression MP3. Parce que le format de compression dégrade la qualité de la musique. En fait, en compressant la musique, on va remonter des niveaux faibles aux niveaux forts. Donc là, on va avoir une perte de nuance. Et puis, le format de compression, il vient amenuiser la qualité des graves et des aigus en les arasant. Donc on va avoir une perte de sonorité. Donc perte de nuance plus perte de sonorité, ça fait une musique de moins bonne qualité. Donc ça va pousser à mettre plus fort pour mieux comprendre. Donc le format de compression, MP3, MP4 et suivant, invite en fait au risque. Et puis la troisième raison, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau on l'écoute en fait. Sur aucun appareil, on a des indicateurs de décibels. Les graduations, elles varient selon les marques, de 1 à 100, de 1 à 50, enfin c'est très variable, mais on ne sait pas à quel décibel, à quel niveau, à quel volume on écoute réellement son baladeur.
Donc les conseils pour faire attention, c'est de gérer le volume? De ce que j'entends dans ce que tu dis.
Pour un baladeur, il y a plusieurs conseils qu'on peut donner. Le premier, c'est de compresser un peu moins la musique pour garantir une qualité supérieure et une audibilité satisfaisante. On n'est pas toujours obligé de compresser à 100%. On a différents niveaux de compression, donc on peut choisir des niveaux de compression où la qualité est meilleure. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le 60-60. En gros, 60 minutes d'écoute maximum à 60% du volume maximum et accepter qu'on entende moins bien. Parce que le baladeur fait qu'on écoute la musique dans des milieux dégradés. On va l'écouter dans le bus, on va l'écouter dans la rue, mais forcément, il y a un environnement sonore autour de ce baladeur qui est assez dégradé. C'est différent d'écouter chez soi, dans une pièce calme, de qualité. Donc il faut accepter que la musique, on l'entendra moins bien, avec une moins bonne perception, et accepter donc de baisser le volume. Mais globalement, donc, les conseils en dehors du baladeur, c'est de baisser le volume et de s'éloigner des enceintes pour avoir une perception moins importante du volume dans ses oreilles. C'est diminuer le temps d'écoute et aménager des temps de pause. En gros, peut-être une heure d'écoute, 15 minutes de temps de pause, ça, quand on est en salle de concert, quand on est en discothèque, quand on a des endroits de musique ou de son très amplifiés, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel, il faut pouvoir s'aménager des temps de pause réguliers. Et puis enfin, utiliser des équipements de protection, qui sont les bouchons d'oreilles, qui sont les casques. Et ces équipements de protection sont aujourd'hui de plus en plus distribués dans les salles de musique actuelles, mais c'est également distribué ou obligatoire en milieu professionnel. Alors, il ne faut pas hésiter également à faire contrôler régulièrement son audition si on sait qu'on a des pratiques à risque, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient des pratiques de loisirs. On joue dans un groupe ou on fait du tir sportif, enfin, bref. Donc il faut pouvoir faire contrôler régulièrement son audition. Il y a prochainement, Fleur le disait tout à l'heure, la journée nationale de l'audition, le 12 mars. Et à l'occasion de cette journée nationale de l'audition, un certain nombre de duoprothésistes proposent des contrôles d'audition gratuits. Donc il faut aller voir sur le site journée-audition.org et là il y aura l'adresse des praticiens sur Angers ou dans l'agglomération qui permettent de contrôler, de faire des tests d'audition. Donc il ne faut pas hésiter à faire contrôler, et puis il faut être attentif aux signes d'alerte. Les signes d'alerte, c'est les bourdonnements, les grésillements, et ça signifie qu'on a atteint nos limites. Et s'il persiste après une nuit de sommeil, quand on revient d'un concert, ou par exemple, s'il persiste après une nuit de sommeil, il ne faut pas hésiter à consulter. Ça veut dire que les cellules ciliées ont du mal à se réveiller après ce choc, ce traumatisme sonore qui a été une soirée d'écoute. Et puis il faut penser à aménager vraiment des temps de pause. Si pendant une journée ou une soirée on a été très exposé au bruit parce qu'on était en discothèque ou en concert, le lendemain, il faut vraiment privilégier le calme pour ses oreilles. Voici quelques conseils, donc gérer le volume, gérer la durée et trouver des moyens de se protéger les oreilles.
Ok, merci pour ces infos Sébastien. Pour faire le lien avec ce que nous on voit sur le terrain avec les noxambules, quand on parle de risque auditif, c'est vrai qu'il y a souvent, il y a une partie des jeunes qui mettent tout le temps des bouchons à tous les concerts où ils vont et qui sont très sensibilisés à ça. Et puis il y a une partie des gens qui comprennent même pas pourquoi on donne des bouchons et qui voient pas le rapport avec la prévention. Donc voilà, c'est l'occasion de parler de tout ça et qui savent pas les mettre surtout. Donc voilà, je dis aux gens qui ne savent pas mettre les bouchons qu'ils n'hésitent pas à venir au stand des Noxambules parce que ça fait partie des choses dont on parle le plus, d'expliquer aux gens comment mettre les bouchons. C'est souvent ça le frein en fait, ils ne savent pas qu'il faut tirer sur l'oreille, qu'il faut bien le rouler au bout des doigts et donc ils ne mettent pas de bouchons parce qu'en fait ils ne savent pas les mettre et que ça leur paraît désagréable à cause de ça. Donc n'hésitez pas à passer au stand des Noxambules, on aura deux actions spécifiques sur la journée nationale de l'audition, le mercredi 11 et le jeudi 12 mars, donc vous pouvez nous retrouver en déambulation à partir de 20h30, et on aura un stand de place du ralliement de 22h à minuit et demi.
Vous êtes toujours dans votre émission Génération, on va faire une courte pause musicale avec le morceau Playmobil du jeune rappeur angevin Odor. Il vient de sortir son nouvel EP qui s'appelle Inodore la semaine dernière, donc on écoute ça et on se retrouve juste après.
Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer, elles vont s'aimer. Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer, elles vont s'aimer.
Yeah. Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer, elles vont s'aimer. Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer, elles vont s'aimer. Tu termines toujours dans le mal, à croire que t'aimes te faire mal, choisir en bien et le mal, sourire en même dans le sale. Tu termines toujours dans le mal, à croire que t'aimes te faire mal, choisir en bien et le mal, sourire en même dans le sale.
Tu connais déjà la matrice, je connais déjà la malédiction. T'as commencé un samedi, tu pensais pas que tu aurais une addiction. Ton addiction c'est le rire, grâce à cette pilule magique fiston. T'as du mal à kiffer la vie, inodore comme la FDJ. Arrête un peu frère, faut
prendre soin de ce qu'on t'a donné. Je vois tes yeux se fermer, ton sourire avec la mâchoire serrée. Suffit pas d'un chewing-gum pour camoufler ton mal-être. T'es dans ce jeu, t'as la manette. Hey, le même niveau se répète.
Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer le faussaire. Ouais, le faussaire. Voilà, 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 voilà. Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer le faussaire. Ouais, le faussaire. Voilà, voilà, voilà. J'ai forcé avec des meufs, je leur ai cité des poèmes dans la boîte. Je voulais pas me sentir seul, tu te sens seul, souhait PMA. Je voulais guider comme le Christ, mais j'ai pas trouvé la foi. En marchant de travers Fox, bouscule un connard sur la piste. Je me prends une droite, j'en prends deux. Putain, les lumières m'agressent. Que des zombies, je ferme les yeux. J'ai bien sonné, je tombe à terre. Le vrai, le faux, je sais plus c'est quoi. Autour de moi, tous intimes. Je vois des mecs avec mon visage, on est tous devenus des pires. Les jeunes de ma génération. Ils aiment s'abîmer le faussaire. Ouais, le faussaire. Voilà, 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 voilà. Les jeunes de ma génération, ils aiment s'abîmer le faussaire. Ouais, le faussaire. Voilà, voilà, voilà,
voilà, voilà. Hey, tu termines toujours dans le mal.
Vraiment.
À croire que t'aimes te faire mal.
Vraiment.
Choisir un bien et le mal.
Vraiment.
Ton sourire amène dans le sale. Tu termines toujours dans le mal.
Vraiment.
À croire que t'aimes te faire mal.
Toujours sur Radio G dans Génération, on continue l'émission avec une interview de Jérôme Wadek. Il est le directeur de l'atelier d'art appliqué à Angers. Je suis allée le rencontrer sur place, il m'a parlé des différentes formations que l'école propose.
Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment elle est née cette envie de faire une école à Angers
L'idée c'était de proposer en fait un cursus en art appliqué, donc les métiers du design. Il n'y avait pas d'école de ce niveau-là sur Angers. Moi j'ai eu la chance de faire un parcours sur plusieurs grandes écoles publiques, sur Paris, Strasbourg, et donc j'essayais de proposer avec une équipe et plein de synergies qui se sont faites au niveau avec des plasticiens, des designers, des professionnels, parce que tous les enseignants ici sont professionnels, et donc ça a été la volonté du projet au départ. Donc l'exigence, c'est le premier mot-clé, et puis l'humain est de faire une école. Là, on a à peine une centaine d'étudiants, de la prépa jusqu'au master, donc du coup en ayant cette proximité avec les étudiants et pas une grosse machine où on est un peu perdu, sachant que dans nos métiers, pour l'aspect créatif, voilà, faut permettre de faire naître, et donc il faut un cadre spécifique pour ça, donc d'où l'atelier et d'où l'humain et l'échelle de l'école qui volontairement dépassera pas cette centaine d'étudiants.
Et justement le parcours de formation, donc il y a une année de préparation, enfin de prépa comme on dit ouais. Au début, et après comment ça s'organise? Il y a 3 années?
Alors,
deux ans.
Cette classe préparatoire, c'est un tremplin en fait qui permet à un étudiant qui sort du bac et qui est souvent pour l'instant un cursus général non spécialisé, d'entrer dans les métiers des arts appliqués, de comprendre un peu ce que c'est le design, les arts appliqués. Souvent il y a plein de confusion, plein de flou. Donc là en fait c'est une mise en pratique, donc c'est à la fois une année d'introduction autant au niveau conceptuel, méthodologique, culturel et technique. Donc il y a un côté touche à tout et aussi un touche à tout de l'œil, c'est-à-dire la curiosité avec beaucoup d'histoire de l'art. Et nous, l'ensemble des cours d'atelier, même pratique, diffuse de la culture générale. Donc on parle d'artistes, on montre des exemples, on regarde en fait, on apprend à regarder. Donc c'est une année qui est à la fois très très dense, comme une classe préparatoire, et souvent on a une image un peu en art, on glandouille, non c'est très dur, il y a des étudiants même qui parfois trouvent que c'est trop dur au niveau du rythme, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail personnel. Et puis la grande différence avec le lycée, c'est qu'ils doivent s'engager, on leur demande qui es-tu, qu'est-ce que tu as à dire, donc petit à petit on arrive à ça, mais c'est très encadré. Et ça nous permet après de professionnaliser, donc en équivalent licence, qui s'appelle le DDC, Diplôme en Design et Communication. Donc on fait du design graphique et de la communication visuelle. Et là, c'est en 3 années, on va vraiment parler client, cahier des charges, comment faire une affiche, comment faire un logo. Voilà. Mais la prépa est vraiment plus orientée introduction.
Vous êtes en partenariat avec énormément de structures. Ça oui. Permet aux jeunes de pouvoir aller dans différentes entreprises au niveau des stages. Comment ça se...
Alors à la fois au niveau déjà des opportunités de projet, on travaille avec la Collégiale Saint-Martin où là les étudiants de prépa, dès la prépa ont pu exposer face à Xavier Veillant qui est quand même un artiste d'une certaine stature, donc il y avait une adrénaline à être au rendez-vous par rapport à ça. Donc là c'est hyper intéressant parce que l'étudiant est confronté à une réalité in situ, donc là c'était une installation plutôt plastique. On travaille aussi avec le Musée des Beaux-Arts où là par exemple ça a été l'occasion pour une de nos étudiantes de DDC justement de faire l'affiche pour la Nuit des étudiants qui va avoir lieu bientôt. Et ces opportunités-là permettent aussi des connexions, puisqu'on a par exemple, il y a deux ans, une étudiante qui a fait son stage avec le service médiation des publics au Musée des Beaux-Arts, qui a travaillé notamment sur les supports de médiation pour les enfants, le jeune public. Donc tout ça, c'est un maillage en fait à la fois avec les institutions et les entreprises privées qui permettent effectivement aux étudiants d'avoir des opportunités pour les stages et les rencontres professionnelles.
Il y a Sortez Curieux aussi, le guide gratuit des étudiants.
Oui. Est-ce alors que ce guide, au début, c'était interne. En fait, c'était un guide qu'on avait édité pour nos étudiants qui découvrent Angers, parce que tous ne sont pas en juin. Et puis certains sont en juin, mais étant encore chez papa, maman. Et là, il y a un peu une découverte dans l'autonomie. Et donc, on a souhaité à la fois faire un objet concret qui aide, donne des bons plans en fait pour s'installer sur Angers et vivre
c'est
sur
pratique.
Angers. Voilà. D'où l'idée Sortez Curieux. En gros, c'est venez découvrir Angers sous l'œil d'un étudiant en art appliqué. Et tous les ans, c'est un illustrateur, un jeune illustrateur qui est, après un petit concours, qui est sélectionné. Et c'est aussi une vitrine pour lui, pour montrer notre savoir-faire en édition et en illustration, puisque c'est l'illustration qui habille ce guide.
Il est un peu disponible partout sur Angers, du coup.
Oui, alors il est diffusé chez tous nos réseaux de partenaires, mais aussi dans les bars, tous les lieux de diffusion, un peu tous les lieux un peu intéressants entre
culturel,
la frontière,
ouais.
Voilà, culturel, mais aussi ça peut être dans des restos, enfin tous les lieux un peu où on sort et des choses à voir.
Et alors au niveau des conditions d'admission, comment ça se passe pour venir pour
alors,
la première
l'idée,
année
c'est,
par exemple
on ne demande pas aux étudiants de savoir déjà faire. Donc une des questions qu'on a très souvent, c'est est-ce qu'il faut savoir dessiner pour faire des études d'art. Et si vous voulez devenir dentiste, on vous demande pas de savoir déjà être dentiste. Donc en gros, là c'est pareil. Évidemment, par contre, il faut une curiosité. Il faut déjà avoir un peu un matériau sensible, être, je dirais, avoir un regard un peu ouvert. Mais l'idée, c'est qu'on va apprendre tout ça ensemble. Donc ce qu'on veut vraiment voir, c'est quelqu'un déjà qui a fait un effort de travail dans sa formation, donc qui est prêt à s'engager, parce que comme je disais, c'est assez dense. Et après, qu'il soit curieux, motivé, qu'il ait voilà, une envie de découvrir un peu tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un entretien vraiment de motivation, avec un petit test écrit de culture générale. Mais c'est vraiment la personnalité qui va faire le cœur de entretien. Et plus on monte dans la progression pédagogique, plus là on demande des travaux petit à petit. Donc pour la prépa, entretien seul. Et quand on arrive au niveau licence, là on demande un book avec les travaux qui ont été faits justement pendant cette année préparatoire.
Et ma dernière question, vers quel métier on peut se tourner après ce genre d'études?
Alors dans nos métiers en fait du design, on a plein d'intitulés qui veulent dire la même chose. Par exemple, designer graphique, graphiste. Après on peut voir des niches avec publicitaire, photographe, illustrateur, typographe, qui est encore une spécialité. Donc en fait on travaille ou bien en agence générale, c'est-à-dire on va travailler pour tous les clients, affiches, identité visuelle, éditorial, enfin tous ces univers-là. Et donc on peut être directeur de création, directeur artistique aussi. Et puis on a aussi tous les postes en interne, par exemple au service communication d'une entreprise ou d'une institution. Donc par exemple on a un des étudiants qui ont été embauchés à destination Angers et qui travaille sur l'offre touristique d'Angers, comment la mettre en image, comment la diffuser au grand public. Donc c'est voilà, les différents postes. Et puis à terme, avec un peu d'épaule, on peut se lancer en freelance aussi. Dans nos métiers, il y a beaucoup de gens en freelance, où là du coup on va travailler avec différents intervenants et on est la chance d'avoir sa liberté avec toute la difficulté aussi que ça implique. Mais voilà, il y a autant des postes salariés dans différents domaines, commerciaux, culturels, et les postes indépendants. Merci.
Merci Jérôme.
Et pour en savoir plus, sachez que vous pouvez vous rendre aux portes ouvertes et aller rencontrer les élèves, les professeurs et poser toutes les questions que vous voulez. Ça se passe le samedi 7 et le dimanche 8 mars. L'atelier d'art appliqué se situe donc au 20 rue Florent Cornillot. Et si vous voulez écouter le reportage complet, il est passé mardi dans l'émission Le Mug, donc toujours sur Radio G. Et vous pouvez donc réécouter le podcast sur le site internet. Vous y retrouverez l'interview de Jérôme ainsi que une visite de l'école, l'interview d'un élève et de l'assistante de communication. Mais pour l'heure, retour dans nos studio à Radio G. J'accueille aujourd'hui dans Génération Thierry et Émilie, tous les deux éducateurs sur la consultation jeunes consommateurs à Alia. Et le sujet du jour, c'est le tabac.
Le tabac, c'est à vous, on en viendra tous à vous.
Alors le tabac, il y a beaucoup à en dire. Sa place dans la société, dans les relations sociales, le business qu'il représente, la préoccupation pour la santé publique. Soyons clairs, l'industrie du tabac a tout fait pour vendre un maximum de cigarettes et donc gagner énormément d'argent, alors même qu'ils ont toujours su, bien avant les médecins, que les cigarettes étaient cancérigènes et rendaient dépendantes. Les cigarettiers manipulent les consommateurs. Et ils continuent encore aujourd'hui en lançant le tabac à chauffer. Nous y reviendrons. Plus personne n'est dupe, le tabac est dangereux, la loi Evin a permis de transformer les habitudes de consommation. Il serait inconcevable aujourd'hui de fumer dans un train, au cinéma, dans sa voiture avec les enfants derrière.
Du coup, on va écouter un extrait d'un sketch de Blanche Gardin qui illustre ce que tu viens de dire.
J'ai grandi dans une famille, ça fumait, on fumait, je suis née fumeuse. Enfin, on partait en vacances, les parents nous foutaient les trois enfants dans la R9, les vitres fermées. Ma mère, elle enchaînait les Gauloises, mon père, il enchaînait la pipe, du tabac brun. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est que de la fumée de pipe. Mais c'est même pas de la fumée d'ailleurs, hein. c'est solide en fait, hein. c'est du goudron pur, c'est des tronçons nationales qu'il avalait, mon père, vraiment quoi. Et nous on était là à l'arrière, on chantait, on toussait, on fumait, enfin j'ai toujours fumé quoi. Alors, on savait pas bien sûr à l'époque que c'était si dangereux, c'était une autre époque, hein.
Malgré ça, pour les plus jeunes, il reste une expérience très fréquente, avec un taux de fumeurs régulier non négligeable.
Alors malgré la dangerosité du produit, le tabac reste un produit très répandu et banalisé, auquel on ne prête pas forcément attention. Alors qu'en est-il réellement ?
Eh bien, selon des études de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 25% des jeunes de 17 ans consomment du tabac quotidiennement. Et même si ces études montrent une baisse des expérimentations, la proportion des fumeurs intensifs, c'est-à-dire 10 cigarettes par jour, toujours pour les jeunes de 17 ans, elle reste stable. Il y a donc encore du chemin à parcourir pour sensibiliser et informer. Et concrètement, pour plus de la moitié des adolescents, fumer n'est dangereux que si l'on fume tous les jours. Alors que pas seulement, il faut prendre en compte le temps d'exposition au produit, en plus de la quantité et de la régularité. C'est-à-dire, pour être clair, que le nombre d'années est un facteur de risque important. Quelqu'un qui fume peu, une cigarette par jour après le dîner pendant 20 ans, s'expose à des risques considérables. Et la légalité de ce produit ne le rend pas inoffensif. En effet, sur la CJC, on rencontre des parents qui sont en panique pour un joint dans le mois, mais qui acceptent d'acheter des paquets de cigarettes à leurs jeunes.
Et alors, qu'est-ce qui est réellement nocif dans le tabac ?
Quand on pense tabac, on pense nicotine. Alors que la nicotine en soi n'est pas toxique pour l'organisme. Par contre, c'est elle qui crée la dépendance. C'est un produit très puissant qui atteint le cerveau rapidement. Et cette dépendance peut s'installer en moins d'un an de tabagisme. La fumée d'une cigarette contient, elle, plus de 4000 produits chimiques, dont par exemple les goudrons, qui sont parmi les produits les plus cancérigènes, le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique. C'est donc la combustion de ce produit qui augmente les risques. Par ailleurs, les cigarettes light sont tout aussi dangereuses, car pour avoir la dose de nicotine, les gens aspirent de plus grandes bouffées, donc ingèrent une plus grande quantité de fumée. De même, beaucoup pensent limiter les risques avec du tabac à rouler, alors que leur rendement en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone est estimé de 3 à 6 fois supérieur aux cigarettes industrielles.
Alors finalement, la cigarette électronique, c'est dangereux ou pas ?
Alors, c'est pas une cigarette. Nous, on préfère parler de vape ou vapoteuse pour qu'il n'y ait pas de confusion. Aujourd'hui, il y a un consensus, dans le corps médical. La vape, elle est nettement moins dangereuse parce qu'il n'y a pas de combustion, mais c'est de la vapeur d'eau. Donc, il n'y a pas de goudron, pas de monoxyde, etc. Cet outil n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui ne fume pas. Mais pour un fumeur, par exemple, elle peut être utilisée pour réduire les risques liés aux différents produits toxiques. Dans tous les cas, on la conseille comme un outil de changement ou de transition vers l'arrêt.
Alors, en introduction, vous nous parliez du tabac à chauffer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Alors, puisque l'industrie du tabac ne peut plus nier la dangerosité de la cigarette, ils tentent de sauver leur business. Vous avez peut-être vu l'IQOS, qui est vendu chez les buralistes. Il s'agit d'un appareil électronique dans lequel on insère un stick de tabac. Sous prétexte qu'il n'y a pas de combustion, les cigarettiers veulent nous faire croire que ce produit est moins nocif. Mais cela reste le même tabac que dans une cigarette ordinaire. Nous déconseillons donc son utilisation. Et il ne faut surtout pas confondre l'IQOS avec la vape. Dans les autres modes de consommation que nous déconseillons également, il y a la chicha ou narguilé, prétendument inoffensif car l'eau permettrait de filtrer les substances chimiques que bien souvent les personnes méconnaissent ce qu'est réellement le tabamel. Donc c'est le produit spécifique que l'on fume avec la chicha. Dans ce tabamel, il y a bien du tabac, également de la nicotine, donc un risque de dépendance, et toutes les substances dont nous avons parlé précédemment. Les médecins estiment qu'une séance de chicha équivaut environ à 40 cigarettes.
Et alors si on veut en parler ou si on veut avoir de l'aide pour arrêter, à qui il faut s'adresser ?
Eh bien, c'est possible de s'adresser à son médecin généraliste, à un tabacologue ou à un professionnel de santé comme un infirmier scolaire par exemple. Et puis bien entendu, c'est possible de venir à la consultation jeune consommateur.
Merci Émilie, merci Thierry.
Merci Kelly.
Et on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, on retrouve Unicité avec des jeunes en service civique. Cette fois, ils nous ont parlé de leur mission JAD et c'est avec Elisa, Adeline, Léa et Alan qu'on en parle.
Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans. Je suis angevine et avant de faire un service civique, j'ai fait un DUT carrière sociale dans l'animation sociale et socioculturelle. Et j'ai voulu faire une année sans études pour changer un peu et pour reprendre mes études après. Et du coup, j'avais des amis qui avaient déjà fait un service civique et dont un qui avait fait un service civique à Unicité, qui m'a parlé du coup de la mission Jade et de Unicité, et une autre de mes amies aussi qui se lançait pour faire un service civique cette année. Et voilà, je suis allée à une réunion qui est organisée par Unicité au Pont-de-Cé.
Je m'appelle Adeline, j'ai 22 ans. J'ai fait une licence de psychologie avant d'être en service civique. Du coup, moi, j'étais en fait chercher qu'est-ce qu'était un service civique. Et du coup, j'ai été sur la page en fait, officielle du service civique où vraiment il y a toutes les missions proposées. Sur laquelle j'ai vu en fait, que Unicité proposait plusieurs missions. Donc j'ai assisté, comme Elisa, en fait, à une réunion d'information où j'ai découvert en fait, le programme, la mission Jade et le service civique. Alors pourquoi j'ai décidé de le faire cette année? C'est parce qu'après une licence, j'avais envie un petit peu de sortir du système scolaire, de faire une pause, voilà, sur 9 mois. Et donc le service civique était